Laudetur Jesus Christus.
Dans les moments difficiles de la vie, Marie nous invite à ne pas avoir peur. Retour sur la messe célébrée hier soir dans la basilique Saint-Pierre par le pape François à l'occasion de Notre-Dame de Guadeloupe, la sainte patronne des Amériques. L'Éthiopie et la Somalie sur la voie de la réconciliation. Un accord a été signé entre les deux pays garantissant un accès à la mer à Addis Abeba sous supervision somalienne. La fin de plusieurs mois de tensions diplomatiques. Dans ce journal aussi, la question des réfugiés syriens revenus au cœur des préoccupations de l'Union européenne. Après la chute de Bachar al-Assad. Et puis, à 48 heures du départ du pape pour Ajaccio, gros plan ce matin dans notre dossier sur les traditions de la religiosité populaire en Corse.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Alors que l'Église fait mémoire le 12 décembre de Notre-Dame de Guadeloupe, François a présidé une messe hier soir à 18h dans la basilique Saint-Pierre, entouré de 4000 fidèles en grande majorité du continent américain, là où la Vierge est apparue à l'Indien Juan Diego en 1531, près de l'actuel Mexico. Le Saint-Père a improvisé son homélie en espagnol, revenant sur le cœur du message de la Vierge, les précisions de Marine Henriot.
Une homélie simple et essentielle, à l'image du message de la Vierge Marie à l'Indien, François a analysé ces paroles de la Vierge. « N'aie pas peur, ne suis-je pas là » avait-elle prononcé avec tendresse, des paroles dont il faut se souvenir telle une ritournelle, a-t-il insisté. François, qui a aussi tenu à mettre en garde contre les idéologies développées autour du mystère de Guadeloupe, alors que le cœur du message sont tout simplement la tilma, c'est-à-dire la veste traditionnelle que portait l'Indien, la rose et la mère.
La tilma, la madre.
La maternité de Marie se manifeste dans la beauté des roses que l'Indien trouve et porte à éclairer le pape, entouré de 350 prêtres et 28 évêques et cardinaux. La maternité de Marie accomplit le miracle d'apporter la foi au cœur quelque peu incrédule des prélats, a-t-il continué. La tilma, la rose et la mère, tout ce qui est dit au-delà de ces paroles est un mensonge, a dit François. En conclusion, le mystère de Guadeloupe consiste à vénérer et à écouter avec nos oreilles ce message de la Vierge. N'ayez pas peur, je suis votre mère. Et se le répéter dans les moments heureux comme dans les moments difficiles.
Voilà, compte rendu signé Marine Henriot. Plus d'informations sur vaticannews.va. Le pape, dont le message pour la prochaine journée mondiale de la paix a été dévoilé hier. Cette journée qui aura lieu le 1er janvier comme chaque année. Un message dans lequel le prochain jubilé prend une place importante comme une année de paix et d'espérance. Et puis François recevait hier au Vatican Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Les discussions ont porté sur la contribution de l'Église catholique à la société palestinienne, la dramatique situation humanitaire dans la bande de Gaza, mais aussi l'importance de parvenir à la solution à deux États. François et Mahmoud Abbas qui ont aussi fait part de leur espoir commun que le jubilé de 2025 permette un retour des pèlerins en Terre Sainte. Les pays du G7 se retrouvent aujourd'hui pour une visioconférence consacrée à la Syrie, alors que le nouveau pouvoir de transition à Damas promet des garanties pour les différentes composantes du pays. Un sommet virtuel qui était déjà programmé avant la chute de Bachar al-Assad. Hier, dans un communiqué, les pays du G7 se sont engagés à soutenir un gouvernement inclusif et non sectaire qui respecte les minorités religieuses et ethniques syriennes. Pour les pays européens, la nouvelle configuration en Syrie pose une nouvelle fois la question de l'avenir des nombreux réfugiés syriens dans l'Union européenne. Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se sont réunis hier à Bruxelles, alors que plusieurs pays ont déjà suspendu les demandes d'asile de réfugiés syriens sur leur territoire. À Bruxelles, les précisions de Pierre Benazé.
Cinq jours après la chute de Bachar al-Assad, 15 pays de l'espace Schengen ont déjà suspendu l'examen des demandes d'asile de réfugiés syriens. Les Européens espèrent que la situation va permettre à beaucoup d'entre eux de rentrer en Syrie, mais plusieurs ministres estiment qu'il est surtout urgent d'attendre. D'abord, certains soulignent que cette suspension de l'examen des demandes d'asile est uniquement une mesure de type administratif, déclenchée par l'incertitude quant à la situation dans leur pays d'origine. Une affirmation qu'il faut tempérer, puisqu'un groupe de 8 pays de l'UE avait avait déjà envisagé cet été de normaliser les relations avec le régime Assad pour renvoyer les réfugiés. Mais les pays n'ont pas harmonisé leur position. D'un côté, l'Autriche veut organiser des vols de retour, alors qu'au contraire, Suède et Danemark suspendent toute reconduite aux frontières. Le commissaire européen aux affaires intérieures estime impossible les retours forcés de réfugiés syriens, je cite « pour l'instant ». Si le groupe Hayat Tahrir al-Sham reste classé comme terroriste par l'Union européenne, la seule possibilité sera d'entamer des relations par l'intermédiaire d'autres pays, comme c'est le cas avec les talibans en Afghanistan. Dans ce cas-là, le retour des réfugiés ne sera plus qu'une question politique, surtout dans les pays européens, marquée par une poussée de l'extrême droite. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
Une nouvelle aide militaire états-unienne à l'Ukraine de 500 millions de dollars annoncée hier à Washington. Il s'agit notamment d'obus d'artillerie, de drones ou encore de véhicules militaires. L'Ukraine qui peut compter sur ses alliés européens, même s'ils restent divisés. L'Union européenne se doit de soutenir Kiev pour qu'elle soit en position de force dans de futures négociations de paix avec la Russie. C'est ce qu'ont rappelé hier le président français Emmanuel Macron et le premier ministre polonais Donald Tusk lors d'une visite et d'une rencontre à Varsovie. Adrien Sarlat.
Donald Tusk et Emmanuel Macron ont tenu à rappeler le rôle de l'Europe dans une possible paix ukrainienne. Une paix juste, selon les termes du dirigeant polonais, qui devra être faite par et pour les Ukrainiens.
Si vous me le permettez, cher ami, je veux profiter de cette occasion pour couper court aux spéculations sur une éventuelle présence militaire d'un quelconque pays étranger en Ukraine après la signature de la paix.
Mais Emmanuel Macron l'a martelé, cette paix ne sera possible que si l'Europe prend en charge sa propre sécurité. Une conviction renforcée par les déclarations du président élu Donald Trump, qui envisage de retirer les États-Unis de l'Alliance transatlantique.
Les Européens doivent évidemment renforcer encore leur investissement en la matière, mais aussi investir pour développer une base industrielle européenne de défense et réduire nos dépendances stratégiques. Et je sais combien la grande nation de défense qui est la vôtre partage cette volonté.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Pologne montre déjà la voie à ses alliés européens en consacrant chaque année plus de 4% de son PIB à ses dépenses militaires. La France et la Pologne devraient signer un nouveau traité de coopération à Nancy en mars prochain. Adrien Sarlat, Varsovie, pour Radio Vatican.
Et l'Ukraine, victime ces dernières heures d'une nouvelle attaque russe massive sur ses infrastructures énergétiques, annonce ce matin le ministère de l'Énergie à Kiev. Des coupures de courant ont eu lieu dans tout le pays. Partons à présent sur le continent africain et cette bonne nouvelle, la Somalie et l'Éthiopie s'engagent sur le chemin de la réconciliation. Le 1er janvier dernier, la signature d'un accord de principe entre Addis Abeba et la République autoproclamée du Somaliland, garantissant un accès à la mer Rouge, à l'Éthiopie, avait déclenché une guerre diplomatique entre les deux pays. Mais une médiation turque a permis d'aplanir les litiges entre les deux voisins. La correspondance à Addis Abeba d'Augustine Passy.
Il aura fallu près d'un an pour que l'Éthiopie et la Somalie s'engagent sur le chemin de la réconciliation. Le 1er janvier 2024, Addis Abeba et le Somaliland ont signé un accord de principe qui garantissait à l'Éthiopie, pays enclavé le plus peuplé du monde, une base militaire navale et un port commercial sur la mer Rouge. Furieuse, la Somalie, qui n'a jamais reconnu la République autoproclamée, a expulsé l'ambassadeur d'Éthiopie et refusé que les militaires éthiopiens continuent à participer à la mission de maintien de la paix sur son sol. Les tensions s'étaient propagées au reste de la région, attisant les rivalités historiques de l'Égypte et de l'Érythrée avec l'Éthiopie. Après deux échecs, la médiation turque a remporté un premier succès dans la soirée du 11 décembre. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont signé une déclaration prévoyant un accès fiable, sûr et durable à la mer Rouge pour l'Éthiopie, mais sous l'autorité de la Somalie. Les désormais ex-rivaux se sont engagés à respecter leur souveraineté mutuelle et à entreprendre des discussions en février 2025. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Une autre réconciliation est-elle en vue dans l'est de la République démocratique du Congo? Beaucoup l'espèrent alors que les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame sont attendus en Angola dimanche prochain. Les deux présidents qui pourraient signer un accord de paix selon le président angolais médiateur dans le conflit. Depuis 2021, le M23, un groupe paramilitaire soutenu par Kigali, contrôle de larges portions dans l'est de la RDC, théâtre de violences et d'exactions meurtrières depuis de longues années. Le pape à la découverte de la religiosité populaire en Corse. Ce dimanche, plus de 120 000 personnes, soit un Corse sur trois, sont attendues à Ajaccio pour la première visite d'un successeur de Pierre sur l'île de Beauté en France. Le défi logistique et économique est de taille, mais depuis l'annonce de la venue du Saint-Père il y a trois semaines, la mobilisation est quasi générale. Les Corses veulent montrer à François combien leurs traditions religieuses sont vivantes et donnent à l'Église un nouveau souffle. C'est un sujet préparé ce matin par Marie Duhamel.
Des dizaines d'hommes revêtus de capes portant de pesantes croix, la statue de leur saint ou la bannière de leur confrérie, le pape découvrira dimanche la Granidoula, une procession typique quand des confrères s'enroulent dans une spirale en chantant. Une tradition que Nicolas Bras veut transmettre. À seulement 32 ans, il est le prieur d'une des plus vieilles confréries de l'île, celle de Saint-Antoine Abbé à Calvi.
En fait, ma grand-mère, sa foi m'a beaucoup touché. Et j'ai trouvé en fait dans la confrérie une manière de pouvoir découvrir cette foi et de pouvoir m'épanouir. Alors j'y suis rentré parce que le chant me plaisait beaucoup, mais aussi il y avait un besoin de tradition. Alors c'était un moment dans ma vie où j'avais besoin de me trouver. J'ai traversé des malheurs, j'ai perdu mon frère l'année dernière qui avait que 26 ans. Et en fait, la confrérie m'aide à me rapprocher de la foi et la foi, en fait, ça m'aide à ne pas décrocher, en fait, si vous voulez.
Introduite par les franciscains qui enracinèrent le catholicisme sur l'île entre le XIIIe et le XIVe siècle, les confréries étaient implantées dans tous les villages de Corse en 1905 jusqu'à ce qu'elles ne manquent de disparaître. Les deux guerres ont décimé la population et les Corses ont quitté leur village pour rejoindre le littoral ou le continent. Il fallut attendre les années 60-70 pour qu'apparaisse un mouvement de réappropriation culturelle, le Riacuistu, dont le jalon essentiel est le chant, profane d'abord, sacré ensuite. C'est ce que nous explique Angelina Antonietti, professeure à l'Université de Corse.
L'impulsion avait été donnée dans les années 80 par Monseigneur Casanova, qui était l'évêque de Corse. Et depuis les années 90, où tout le monde a appris à chanter la messe de Rousse, là, de plus en plus, il y a un ethnomusicologue qui s'appelait Félix Kuilich, qui avait fait un énorme travail de collecte à partir des années 40. Et donc, ces enregistrements-là sont au musée de la Corse. Et donc, les communautés se tournent vers ces enregistrements-là, récupèrent leur façon de chanter, et ça va encore plus loin. C'est qu'aujourd'hui, il y a certaines confréries qui n'ont pas pu récupérer leur façon de chanter et qui les inventent.
Une tradition vivante, en plein élan créatif, des confréries qui se réapproprient leur histoire. Mais la proximité, la charité restent des piliers de ces associations régies par la loi de 1901. En témoigne Françoise Sabiani, prieur de Acumfraterna da Santa di Uniolu à Casamacciuli, village dont elle avait été précédemment maire pendant 25 ans.
L'hiver, par exemple, j'avais un secrétaire de mairie qui naturellement s'intéressait aux quelques foyers où il y avait des personnes âgées. Transporter du bois, aller voir si les volets étaient ouverts, pour voir si effectivement les personnes étaient en vie. Hein. Donc le secrétaire était confrère, donc lorsqu'il allait visiter, il le faisait en tant que membre de l'équipe municipale, mais il le faisait également en tant que confrère.
Une double casquette qui n'est en rien problématique en Corse, au contraire, elle permet parfois l'apaisement.
Il y avait des tensions au moment des élections, notamment municipales, jusque dans nos familles. Hein. Et lorsque je suis arrivé à la tête de la mairie, je me suis dit quand même comment on pouvait apaiser ça. Ça a mis du temps. On a essayé de faire en sorte que la mairie et la confrérie travaillent de concert pour certains événements, comme par exemple à Noël. Enfin, il y avait des initiatives prises.
À 83 ans, Françoise Sabiani essaie de favoriser un rajeunissement au sein de sa confrérie, avec succès, puisque des jeunes de 13-14 ans en font désormais partie. Il faut dire qu'en Corse, le nombre de confréries est en pleine croissance et que les adolescents s'y investissent pleinement. Angelina Antonietti.
Ils n'y vont pas au départ quand ils rentrent dans ce genre de structure pour un lien direct avec Dieu. Et puis d'ailleurs, la plupart ne l'ont pas. Mais tous, absolument tous, sans aucune exception, disent qu'au terme d'un certain temps passé dans les confréries, d'un certain nombre de cérémonies effectuées, donc de messes chantées, après ça, ils disent qu'ils reçoivent la foi. Mais tous, vraiment, sans exception.
L'Église se félicite d'un retour au spirituel et au message de l'Évangile, mais si la foi se vit toujours davantage en sortie, sera-t-elle de nouveau vécue lors des sacrements ? Les églises seraient peu fréquentées le dimanche pour la messe.
La religiosité populaire en Corse, un sujet préparé ce matin par Marie Duhamel. Francescu, comme il est appelé là-bas, sera le premier pape à fouler le sol corse. Le Saint-Père, qui vous le savez, viendra clore un congrès organisé sur le thème de la religiosité populaire en Méditerranée. Le pape qui se rendra aussi à la cathédrale et qui célébrera la messe à Ajaccio. Toute cette visite sera évidemment à suivre en direct sur notre site internet avec notre envoyé spécial. Et c'est en Corse que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver à 13h en direct de Rome pour un nouveau journal. Je vous souhaite d'ici là une excellente journée.